Vous êtes bien sur Radio Bartas.
Vous êtes bien sur le 107 FM.
Il est 9h.
Les matinales de Bartas.
Pour parler de tout et de rien.
Du local surtout.
Il y a un peu de national, un peu d'international.
Ouais, mais pas trop.
Les matinales de Radio Bartas.
C'est à partir de 9h.
Sur le 107 FM. Ah, mais c'est parce que j'avais pas mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes au Joie le lundi 10 août, il est 9h et avec moi comme d'hab, Nico, salut Nico.
Et bonjour.
Et avec nous en plateau, il est là en direct, Nicolas Bouys, bonjour.
Bonjour.
Je l'ai bien dit ?
Parfait.
Allez, super. Histoire de flûte, c'est le mercredi 12 août à l'église de la Salelle, à 20h30, le vendredi 14 août à l'église de Saint-Étienne du Val-de-Né, et le dimanche 16 août à l'église des Bondons à 17h. On en parle dans un instant avec toi. Tu nous as fait le bonheur aussi de ramener ton instrument.
Oui.
Il y aura un live après ton interview, c'est super génial. En deuxième partie d'émission, c'est en ce moment et tous les mardis, place au beurre de Florac, des compteurs et des compteuses s'y installent, et c'est dans le cadre des rediffs de l'été. Magnon y était allé l'année dernière, on s'écoutera ça. J'ai eu un souci de bagnole et un souci de clim ici à la radio, c'est génial, que voulez-vous ? Voilà, dès lundi, où tout fout le camp. J'ai donc pas pris le temps et ni eu le temps de faire un édito, ça arrive.
Hein,
voilà.
Il a fallu esponger le studio.
Exactement. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Tu es flûtiste.
Oui.
Et tu fais une petite tournée dans la région. Alors simplement, qu'est-ce qui t'a amené à la flûte ?
Alors, ce qui m'a amené à la flûte... Je ne sais pas. Gamin, en fait, un jour, j'ai dit à mes parents, je veux faire de la flûte traversière. Il n'y a pas de musicien dans ma famille. Donc, ils ne savaient pas vraiment précisément ce que c'était la flûte traversière. Mon frère faisait déjà de la musique au conservatoire, donc j'ai dû traîner dans un couloir et entendre de la flûte, je ne sais pas, en fait. Je sais que j'ai commencé la flûte traversière vers les 8 ans.
Plutôt et... là où d'autres auraient choisi la batterie ou le piano, toi tu t'es dit la flûte traversière.
Ouais,
c'est
voilà,
quoi, c'est une question de praticité dans le
Non, même pas.
Le transport.
Non. Même pas. Mais voilà, je sais pas. C'est un petit mystère, mais en tout cas, j'ai pas lâché depuis cet instrument et je suis plutôt content de l'avoir choisi.
Alors, tu as une approche historique de l'instrument, c'est-à-dire que vraiment, au-delà du fait de le jouer, parce que c'est quand même super, super beau, c'est chaleureux, on l'écoutera tout à l'heure, mais toi, c'est aussi l'histoire de l'instrument qui t'intéresse.
Oui, voilà, et en fait, j'ai découvert assez tard, j'ai commencé avec la flûte moderne en métal que tout le monde connaît, j'ai joué cet instrument très longtemps, je le joue encore, et vers le tard, je me suis aperçu qu'en fait, notre instrument a une histoire colossale, et une variété infinie, en fait. C'est-à-dire que la flûte traversière, il n'y a pas une flûte traversière, il y en a des centaines différentes. Et si on part dans le programme, on commence en 1708, donc à la cour de Louis XIV, et c'est le début de la flûte traversière baroque en bois. Et depuis cette date-là, depuis trois siècles, il y a eu énormément d'instruments différents, de branches, de tentatives technologiques d'un côté, de l'autre, d'essais plus ou moins fructueux. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, en fait. Et du coup, j'ai voulu essayer aussi ces instruments-là. Et c'est ce que je fais donc depuis un certain temps. Et la démarche qui va avec, c'est-à-dire pas seulement les jouer, mais aussi comprendre comment on les jouait. Donc lire les anciennes méthodes, les anciens traités, les témoignages des gens à toutes époques. Comprendre le bon goût de l'époque aussi, puisque le bon goût d'une époque n'est pas nécessairement le bon goût d'une autre. Si on regarde la déco des années 70, aujourd'hui on s'aperçoit que le bon goût d'une époque peut varier. Claire. Et du coup le bon goût de la musique, même début 20e siècle, en 1900, on entend des enregistrements, des fois on trouve ça presque moche, en fait, on est surpris, ça nous choque, parce que c'est un bon goût qui est très différent. Donc voilà, s'approprier ce goût et arriver à le restituer au XXIe siècle.
Notre oreille a un peu évolué aussi, c'est-à-dire que des choses qui sonnaient juste à une époque sonnent aujourd'hui plus juste.
Bien sûr.
Ça, oui, on s'est expliqué, et même à la flûte, c'est le cas aussi.
Oui, il y a des choses qui des fois, on lit comment on jouait telle chose, on le fait, et on est choqué, on est surpris, on dit, mais non, c'est pas possible, en fait. Et du coup, tout le travail aussi consiste à s'approprier cette chose qui nous paraît étrange, et petit à petit à se la rendre familière et à la restituer au public.
Qu'est-ce que tu appelles l'influence de sa fracture du jeu ?
L'influence de sa facture ?
Ouais, j'ai lu ça dans les...
L'influence de la facture, c'est que, en fait, toutes les flûtes sont différentes, et elles ont... Tu vois, il n'y a pas beaucoup de trous sur une flûte traversière, sur celle-là, en tout cas, il y en a 7. Et sans trop rentrer dans le détail, mais acoustiquement, c'est pas parfait. Il y a les trous qui sont un peu là où on peut mettre les doigts aussi, quoi.
Ah ouais.
Et du coup, c'est un instrument qui a des défauts, qui a des particularités avec des notes qui sont un petit peu moins jolies que d'autres, un peu plus ternes, etc. C'est ce qui fait aussi tout son charme, du coup. Et chaque instrument est différent. Il y a des instruments qui sont un peu plus compliqués à jouer que d'autres. Il y a des instruments où il faut plusieurs semaines pour se l'approprier, pour vraiment comprendre comment il fonctionne et arriver à le faire sonner un peu comme on a envie. Donc c'est ça, en fait. Et ça nous amène aussi, nous, ça nous guide, parce que si on est sûr que l'instrument n'a pas été modifié depuis, ça nous guide vers la façon de le jouer à l'époque, puisque si l'instrument n'a pas changé, a priori à l'époque ils y arrivaient. Donc c'est juste à nous de faire ce chemin-là pour comprendre l'instrument et arriver à le manipuler et à le jouer correctement.
Comment tu choisis les œuvres que tu interprètes ? C'est quoi ? C'est des coups de cœur ? Ou bien c'est la période qui... Tiens, tu vas te dire, hop, dans un manuel, enfin dans un livre d'histoire, tu te dis, ah tiens, ça je connais pas telle œuvre ou telle œuvre, ce serait intéressant.
Comment tu fais ? Il y a un peu de tout. Il y a des coups de cœur, il y a des pièces emblématiques, phares, des tubes, qu'on est presque obligé de jouer, entre guillemets, et puis qu'on a un grand plaisir à jouer de toute façon. Et puis là, c'était un programme vraiment conçu pour montrer toute l'évolution de l'instrument. Je vais jouer 6 flûtes différentes, et donc j'ai cherché des œuvres emblématiques d'une période, ou pour montrer aussi l'évolution de la musique et de l'écriture musicale, j'ai choisi un type particulier d'œuvre pour montrer une chose précise.
Et justement, c'est quoi ton cursus musical, le conservatoire, le... Alors, classique ?
C'est le conservatoire hyper classique en flûte moderne, à Perpignan au début, et puis en région parisienne pour finir mon cursus. Et une fois fini, à nouveau finalement, le conservatoire pour les instruments anciens. Du coup, j'ai refait un petit tour gratuit en finissant au conservatoire de Paris sur les instruments anciens.
Est-ce qu'il y a une flûte qui te parle plus qu'une autre ? Est-ce que tu as ta petite préférée, entre guillemets ? Ou alors est-ce que finalement c'est tellement différent dans les 6 que tu joues là, en tout cas pour le récital que tu feras à partir de mercredi ? Est-ce que tu en as une préférée, ou alors est-ce que toutes tu les aimes de la même manière ?
Je les aime toutes de la même manière. J'ai quand même des petites préférences. Celle que j'ai prise ce matin, je l'aime particulièrement. Il y en a qui sont un petit peu plus difficiles à jouer. C'est pas pour ça qu'on les aime moins, mais... Des fois, on les aime un peu moins, quand même.
Ouais, des fois, ça résonne pas de la même manière.
Ouais, des
en
fois,
fait.
Voilà, des fois, il y en a qui accrochent un petit peu, enfin, qui sont un petit peu plus délicates à qui certains jours ne répondent un peu moins bien, ou alors on s'y est peut-être moins fait aussi. Et du coup, le dialogue avec l'instrument, des fois, est un petit peu plus délicat, mais en général, on arrive à bien s'entendre quand même.
Qu'est-ce que va entendre le public, justement ? Alors, tu parlais tout à l'heure 1708, donc
oui.
C'est la première flûte, hein, c'est ça ?
Oui.
Mais dans ce que tu m'as envoyé, on va partir d'abord de Louis XIV, du château de Versailles, c'est ça ?
Tout à fait, carrément. On commence vraiment à la cour de Versailles avec de la musique typiquement française. C'est une suite de danse, donc il y a plein de petites danses, vraiment de bal à l'époque, pour commencer. Ensuite, on va aller chez Bach, un incontournable, donc sa pièce pour flûte seule, hyper connue de tous les flûtistes. Ensuite, on va aller chez Telemann, pour une fantaisie, donc c'est un contemporain de Bach. Ensuite, on va un petit peu plus loin, fin de 18e, avec un arrangement de Vivaldi par Jean-Jacques Rousseau, l'écrivain.
Oh.
Et oui. Il avait plusieurs cordes à son arc.
Carrément.
Ensuite, on va chez Hofmeister avec un thème et variation sur un thème de Mozart ou Haydn. Et ensuite, on passe dans la musique romantique avec Eugène Valkers, qui est un franco-belge flûtiste hyper célèbre à son époque. Là, on est en 1834, sur de la musique populaire. En tout cas, une tentative de musique populaire par quelqu'un qui n'est pas du milieu populaire, donc c'est assez intéressant aussi. Ensuite, de la musique typiquement viennoise, puisque j'ai une copie d'une flûte viennoise que j'aime beaucoup, justement. Ensuite, de la musique française du début du XXe siècle, dont là, carrément, on change d'époque, on arrive dans la flûte moderne, salon métal, que tout le monde connaît, avec 3 petites pièces rustiques du début du XXe siècle, qui sont vraiment des petits tableaux très très beaux. Et pour finir... à Buenos Aires avec Astor Piazzolla, un tango.
C'est ça, et aussi l'idée, c'est pas simplement de jouer les œuvres, mais c'est de vraiment aussi expliquer la contextualité dans ton
oui, bien sûr, c'est ce qui m'intéressait dans ce programme, c'est juste pas de faire entendre de la musique aux gens, de leur expliquer le pourquoi de la pièce et le pourquoi de l'instrument qui fonctionne avec, et de petit à petit de donner quelques anecdotes sur l'évolution de l'instrument. Ils entendront eux-mêmes de toute façon la transformation du son au fur et à mesure, mais de les guider dans cette écoute avec des petits points clés et des petites anecdotes.
Est-ce que tu fais faire tes flûtes sur mesure, ou alors est-ce que elles existent entre guillemets dans des commerces musicaux
Alors il n'y a pas de commerce musicaux d'instruments anciens. On trouve des originaux. Alors au début du 8e siècle, les originaux c'est mort, il n'y en a quasiment plus. Ils sont dans des musées ou dans des collections privées. Des instruments 19e, on en trouve encore, des originaux. Certains sont en très bon état, d'autres sont plus du tout jouables. Et sinon, on les fait faire par des facteurs. Donc, facteur de flûte, c'est quelqu'un qui fabrique cet instrument-là. En général, sur commande. Et comme j'étais un petit peu frustré de l'immense variété des flûtes, et en fait, comme c'est un commerce, la facture de flûte, les facteurs ne s'amusent pas à copier toutes les flûtes qui ont existé, parce que ça ne serait pas rentable. Et j'étais un petit peu frustré de ça. Du coup, je me suis mis à fabriquer des flûtes aussi pour moi.
Sur quoi tu te bases, en fait?
Alors, on se base sur les originaux, donc qu'ils soient dans des musées, soit dans des collections privées. Si on a la chance de pouvoir les jouer, c'est génial, parce que du coup on comprend l'instrument, et quoi qu'il en soit, on les mesure ou on les fait mesurer, s'ils ont déjà été mesurés, on récupère les plans, on fait fabriquer certains outils spécifiques, et ça se fait au tour à bois. Donc on prend en général du buis, donc c'est des très gros buis qui ont au minimum un siècle ou deux, puisqu'il faut quand même 8 cm de diamètre, donc le buis ça pousse très très lentement, et voilà, ça se fait vraiment au tour à bois.
Et y a pas, t'as pas le droit au hasard ni à l'erreur, en fait, finalement. Alors, t'en rates ou
Tu peux en rater, oui, c'est pas un problème. Et ce qui est amusant quand on commence à faire ces instruments, c'est que ça désacralise quand même pas mal la chose. C'est qu'en fait, on se rend compte, certes, ça va être un instrument très beau à jouer, mais au début, c'est un morceau de bois. Donc, si on se rate, ce qui arrive, on reprend un autre morceau de bois et puis on recommence. Si on commence à travailler dans des bois plus précieux, plus rares, des bois exotiques, il faut faire attention à pas trop gâcher de matière première, mais le buis qui est quand même assez commun, même en grande dimension, on peut se permettre de recommencer. C'est juste le temps perdu.
Oui, juste du temps, quoi. Voilà. Est-ce que t'es intermittent?
Tout à fait.
Et comment ça va se passer pour toi, justement, dans cette période étonnante qu'on vient un peu de vivre, et justement pour cette année-là où il y a beaucoup d'intermittents qui sont à l'aveugle un peu?
Eh bien, ça commence tout doucement à s'éclaircir, puisqu'on commence à avoir des décrets qui paraissent avec un retard charmant. mais notre situation commence à s'éclairer et on commence à pouvoir respirer un petit peu. Le statut n'a jamais été aussi important, finalement, que cette année. Et finalement, on est assez serein, parce que là, pour l'instant, on a nos droits qui sont prolongés donc jusqu'à 31 août 2021. Ce qui est pas mal, parce qu'on va quand même avoir encore une année assez compliquée. Là, pour l'instant, depuis mars, bien sûr, tout est à l'arrêt, tous les concerts ont été annulés. Il y en a quelques-uns qui arrivent, comme cette tournée dans les Cévennes, tout à fait réjouissante. Mais pour l'instant, il n'y a aucune proposition, ou très très peu de propositions pour les mois qui viennent, même pour l'hiver, pour le début de la saison, fin de l'année 2021. C'est le calme total.
Difficile de se projeter.
C'est tout à fait difficile de se projeter. Donc on a énormément, énormément de chance d'avoir ce statut en France. Et,
l'exception culturelle française.
Exactement. Prions pour sa continuité et son élargissement à, malheureusement, tous les gens qui allaient être intermittents début mars, début avril, et qui font partie des gens pour qui la situation est beaucoup plus compliquée que la nôtre.
On a vu une nouvelle manière un peu de, entre guillemets, consommer la culture, la musique. Quel est ton regard, toi, un peu là-dessus? Est-ce que ça te réjouit, ou alors est-ce que tu te dis finalement, il n'y a pas de bon là-dedans?
S'il y a du bon, parce que c'est toute la diffusion qu'on peut avoir, finalement, est bonne à prendre. Après, à mon sens personnel, c'est qu'un palliatif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut remplacer
le spectacle
et la rencontre avec le public, que ce soit pour le public et pour l'interprète, avoir un vrai retour directement. On n'est pas du tout dans la même émotion, dans la même sensation que quand on est face au public.
Est-ce que tu joues dans d'autres projets, ou alors vraiment tu joues seul
Ah non, je joue principalement dans d'autres projets. donc que ce soit en petite formation, j'ai un ensemble de musique de chambre, on est quatre. C'est une formation variable, mais à la base on est quatre. Et sinon dans des orchestres plus régulièrement, enfin principalement d'ailleurs.
Et est-ce qu'on peut t'écouter d'ailleurs, je sais pas, sur... est-ce que tu as des albums ou...
Oui, alors j'ai des albums en orchestre ou en groupe. Il y a un album, un disque que j'ai fait à la fin de mes études qui est trouvable, si on cherche mon nom on devrait pouvoir le trouver, c'est sur le site du Conservatoire de Paris. C'est en écoute libre parce que c'est, ça fait partie du projet et c'est un projet que j'avais mené à cette époque-là de quatuor avec flûte qui pareil d'ailleurs assez traversant au niveau chronologique puisque ça commence en 1770 pour finir en 1830 et voilà, ça c'est vraiment un pur projet maison 100%.
Génial, est-ce que t'es prêt pour l'interview détente?
Ah ben allons-y.
Allez, jingle mon Nico. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Non, j'ai pas le droit. Alors, est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditeurs, auditrices?
Oui, Les Jardins statuaires de Jacques Abeille. C'est un voyage, donc c'est le récit d'un voyageur qui arrive dans un pays où on fait pousser les statues. D'où le nom de Jardin statuaire. Oui, c'est assez étonnant. Et du coup, il y a tout... déjà, c'est terriblement bien écrit, une très belle langue. Et voilà, ça parle de voyage, de découverte de culture, de tradition, du poids de la tradition. C'est vraiment un livre que j'adore.
Les Jardins statuaires, est-ce que tu auras un film?
Calmos, avec Jean-Pierre Marielle. C'est très différent.
J'avoue, mais c'est pas mal. Et enfin, un artiste?
Le photographe Robert Adams, magnifique portrait, magnifique portrait des paysages américains. Oui, un vrai coup de foudre quand j'ai pu voir son travail.
Génial. Et ben, comme on a la chance que tu aies ramené ton instrument, on se fait un petit morceau.
Ben allons-y.
Et qu'est-ce que tu vas nous jouer?
Alors je vais vous jouer le premier mouvement d'une fantaisie de Telemann.
Eh ben on t'écoute, c'est parti. Merci, bravo. Merci Nicolas, la douceur de la flûte le matin, ça fait du bien. Histoire de flûte, c'est le mercredi 12 août à l'église de Salelles, c'est à côté de Chanac, c'est à 20h30. Le vendredi 14 août à l'église de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunay à 20h30 aussi. Et le dimanche 16 août à l'église des Bondons à 17h. J'en profite pour saluer Mathilde.
Qui, oui, merci Mathilde.
Voilà, vraiment on l'embrasse. Et ben voilà, merci beaucoup Nicolas.
Merci à toi.
Et vraiment bonne tournée en Lozère, bonne tournée dans nos CR7. T'es content d'être là quand même?
Ah, je suis super content.
Allez, ça va être du bonheur. C'est en ce moment et tous les mardis, place au beurre à Florac. Des compteurs et des compteuses s'y installent et c'est dans le cadre des redifs de l'été. Manon y était allé, c'était l'année dernière. Et ben on réécoute ça tout de suite.
Laurence, Brigitte, Catherine,
Bertrand,
Brigitte,
Camille,
Marion.
Alors, la place au beurre, c'est quelque chose qui existe depuis 6 ans. C'est la 6e année, le 6e été. Ça a démarré sur une envie de présenter le conte aux adultes. sortir de l'idée que le conte c'est pour les enfants et que pour les enfants. Donc c'était un lieu idéal pour attraper les gens en fait et leur donner envie d'écouter et leur faire découvrir que tout ce qu'on raconte c'est des contes, des légendes, des mythes, voilà. Il y a un rendez-vous par semaine, c'est le mardi, on appelle cet endroit et ce lieu le mardi de la place au beurre. C'est de 19h à 19h30, c'est volontairement court parce que ça revient toutes les semaines. Aux sept coups de l'église, ça commence. Et quand la demi sonne, en général, celui qui raconte termine et on donne rendez-vous à la semaine suivante.
J'ai pas compté. Qu'est-ce qui a compté ? 6 ? Bienvenue à vous tous pour cette dernière de l'été. Pour les nouveaux, s'il y a peut-être des nouveaux, tous les mardis soirs, sur cette place, il y a des histoires qui circulent pour les petites oreilles, pour les grandes oreilles.
On ne sait pas qui va venir, on ne sait pas combien de personnes raconteront, on ne sait pas ce que les personnes raconteront. Une seule chose est sûre, c'est que la place n'est jamais vide. Il y a toujours au moins un conteur ou une conteuse.
Alors, c'était aussi il y a longtemps, et pas au Japon, dans un petit village, les Cévennes, et ça part d'un magasin. Et si je te fais entrer dans ce magasin, c'est que tout seul, tu ne le verrais même pas. D'abord, il n'a pas d'enseigne. Il aurait fallu marquer sur la façade droguerie, épicerie, mercerie, parfumerie, bazar. Alors elle, Huguette, Muguette ou Georgette, elle a préféré ne rien inscrire du tout. C'est vrai que je ne sais même pas son prénom. Huguette, Muguette, Georgette, dans la vie, c'est Madame Dubois. On l'a dit aussi la petite mère Dubois, mais poliment, bien respectueusement. C'est vrai qu'elle n'est pas grande. C'est au point que le rideau de fer de sa boutique n'est jamais levé. Il est toujours en demi-deuil. Je ne peux pas le repousser jusqu'au bout. Alors, elle osse juste de quoi faire son passage. Et après, elle guette le premier client. S'il fait la bonne hauteur, ça va. Si c'est un géant, ici, c'est facile d'être un géant. La plupart des Cévenols sont taillés vers le bas. Elle dit à l'Américain, « Vous qui êtes grand, repoussez donc un peu le rideau. » Et le soir, avec un bout de ficelle, elle se débrouille pour le faire redescendre. Des fois, le rideau reste en demi-place toute la journée. C'est qu'aucun grand ne s'est présenté. On est resté entre Cévenols.
Alors le texte, c'est un texte de Gilbert Léautier. C'est un auteur de théâtre qui vit à Aujac, dans le Gard. Voilà. Et donc c'est des petites historiettes qui croquent en fait dans les moindres détails les histoires Cévenols, des personnages Cévenols. Et moi, le texte de ce soir, en fait, il me rappelait en fait l'épicerie, droguerie, bazar qui était à Barre des Cévennes à l'époque, qui était tenue par Madame Saint-Pierre. Voilà, et avec des détails comme la clochette qui sonnait au fond de la cuisine, c'est tout à fait ça, on retrouve tout à fait ça. Voilà, donc ce bric-à-brac, ce monde d'autrefois que j'ai connu quand j'étais gamin, voilà, et qui m'a toujours plu. Voilà. C'était un peu par nostalgie aussi, et puis bon, aussi parce que le texte est quand même rigolo, attendrissant aussi. Voilà.
Alors avant de savoir ce que tu veux, elle commence par te demander comment ça va. Avant de marchander l'objet, on discute le rhumatisme, on bavarde le ciel, on fait causer l'amitié. Pour un clou, tu restes une heure. Le temps qu'elle te l'enveloppe, tu apprends la manière de soigner les varices, l'enterrement de la Claudia, le prix des tomates et le ravage de la dernière grêle. Et si quelqu'un proteste, la petite mère Dubois redevient Madame Dubois. Bouilli ! Il est bien pressé, celui-là. Dites, si c'est pour le feu, les pompiers, c'est à côté. Ici, c'est comme ça. On soigne encore le temps. Ou tu patientes, ou tu repars les poches vides.
Ben, moi, j'ai 13 ans. Et quand j'étais en 6e, il y a Brigitte qui est venue pour nous faire une intervention pour qu'on raconte des contes. Et elle nous a dit, ben, si vous voulez, vous pourrez venir pendant l'été à la place au beurre. Et j'y suis venue parce que j'adore raconter, enfin j'adore partager. Et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que ça me fait plaisir de partager ça avec les autres.
C'est pas dur de passer au-delà de un peu la timidité, le trac, tout ça. Comment tu gères ça?
Ben si, j'ai beaucoup le trac. Mais au début, quand je commence à raconter, je tremble un peu, j'ai beaucoup le trac. Mais après, ça va tout seul et ça, je commence à surmonter la peur.
Il y a 6 ans, moi, je racontais très peu et voilà, j'étais comme Camille, j'avais beaucoup le trac et je ne savais pas trop comment faire exister le conte. Et sur un coup de tête, au mois de juin, j'ai poussé la porte de la mairie, j'ai demandé si la place au beurre était disponible. Et le premier mardi de la première place au beurre, j'étais là un peu seule sur cette place. Il y avait 2 amis en face de moi et un chien qui m'ont fait l'honneur de m'écouter. J'avais 4 contes dans ma besace. Et je me suis dit, bon, je l'ai fait une fois, je vais le faire une deuxième fois. Et la magie a opéré parce que la place s'est remplie, les conteurs, les conteuses se sont joints à moi et le public est venu. Et au cœur de l'été, on a 100, 150 personnes sur cette petite place au beurre. Des gens de Florac, des gens en vacances, des gens qui arrivent par hasard, des gens qui reviennent. Et voilà, donc voilà Camille, on commence comme ça et puis après on y prend vraiment goût.
Oui. Quant à moi, je suis venue au début en spectatrice. Pendant 2-3 ans, je suis venue écouter. Et un jour, je me suis dit, il faut que je me lance. Et j'y suis allée, j'y suis restée. Voilà.
Par-delà 3 fois 9 pays, dans le 3 fois 10e royaume, il y avait un village fait de rondins de bois que l'on appelle Isba. Et à la sortie du village, de chaque côté de la route poudreuse, 2 isbas se font face. Dans l'isba de droite vit Mikhail Mikhailovitch Mikhailov. Et dans l'isba de gauche vit Stepan Stepanovitch Stepanov. Chez Mikhail Mikhailovitch Mikhailov, il y a 4 filles. 4 filles belles comme la lumière de midi, avec les cheveux plus moussus que la blondeur du matin, les pommettes rouges comme pommes d'api. Et ces 4 filles-là, elles sont prêtes à marier. L'aînée s'appelle Skra. La deuxième s'appelle Skra Skradera. La troisième, Skra Skradera Skré. Et la quatrième de son petit nom, Skra Skradera Skré Skrudiskra. Et de l'autre côté de la route poudreuse, chez Stepan Stepanovitch Stepanov, il y a 4 gars. 4 gars plus mystérieux que la nuit étoilée. Bouche fleurie, menton d'argent. Ils sont là et l'aîné s'appelle Sep. Le deuxième, Sep Nepernep. Le troisième, Sep Nepernep Sep. Et le quatrième, Sep Nepernep Sep Sibrisep. De son petit nom aussi. Et puis ces 4-là, ils sont prêts à marier aussi.
Ça fait de la magie, hein, c'est la merveille. C'est ici, quand on raconte 60 ou 140 ou 150 personnes, ça donne une énergie dingue. Et on ressort de là, on peut repartir pour une journée de travail, quoi. Et donc, c'est ça que j'apprécie à la place au beurre par rapport à d'autres endroits où on peut compter. C'est ce dispositif naturel, les maisons, les gens assis sur des bancs de pierre, et puis cette écoute, ces visages qu'on voit, et cette envie d'écouter des histoires. Parce que les gens qui viennent là, c'est parce qu'ils veulent écouter des histoires. Et ça, c'est formidable. Et ça donne un tonus d'enfer pour le conteur ou la conteuse.
Raconter, ça m'a permis d'aller au-delà de ma timidité. Et c'est quand je raconte, je suis dans le conte, je suis avec le public, mais je sais pas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe.
Est-ce qu'il y a une anecdote rigolote ou forte que quelqu'un a envie de raconter de cet été ou d'autres étés d'ailleurs?
Alors le deuxième mardi où nous sommes venus gaillardement malgré la pluie qui menaçait et qui est bien tombée à l'heure où nous devions compter, et quelques personnes, bien sûr, toujours des fidèles, étaient là à nous écouter. Alors on a mis les parapluies, nous étions 3, nous étions 3 avec les parapluies et tout, on a dit tant pis, on continue, et puis là quelqu'un du public nous a dit, mais attendez, il y a un petit coin par là, une entrée d'immeuble où je pense qu'on pourrait se... Et nous sommes tous allés dans cette entrée d'immeuble là, à côté de la place, presque les uns sur les autres, et nous avons raconté à cet endroit-là, c'était voilà, très magique, très sympa.
Alors, vous savez comme les histoires sont bien faites. Quatre filles prêtes à marier, quatre gars prêts à marier face à face. Bon, chacun va finir par trouver sa chacune. Et le village décide de les marier tous les 8 le même jour. Alors, on fait une grande procession. Depuis chez les fiancés jusque chez le pauvre. Et en route, on a chanté, on a dansé. On a chanté parce qu'il y avait Barbara à la balalaïka, il y avait Simon à l'accordéon, il y avait Sacha au violon et on a bu, on a chanté, on a dansé. On a bu, on a chanté, on a dansé, on a bu, on a chanté, on a dansé. Et quand on est arrivé chez le pop, ben, il n'y avait plus personne qui savait qui s'appareillait avec qui. Mais moi, ce jour-là, je n'avais pas bu. Et moi, je sais que Skra a épousé Sepp. Skra Skradera a épousé Sepp Nepernep, Skra Skradera Skré a épousé Sepp Nepernep Sepp, et Skra Skradera Skré Skrédiskra a épousé Sepp Nepernep Sepp Sibrisep. Facile.
Dans un monde un peu désenchanté là, de ce genre de moment où justement on ne se retrouve plus comme ça pour des veillées, comme ça pouvait être le cas, c'est quoi un peu la valeur pour vous de réussir à refaire exister des petits moments comme ça?
C'est la convivialité qui ressort toujours de ces moments-là. Et oui, tout simplement.
La dernière fois, il y a des gens qui sont partis en disant merci pour ce moment de rêve. Donc c'est au-delà de même ce que nous on peut imaginer. C'est pour chaque individu, c'est différent. Mais c'est vrai que c'est un beau cadeau de nous dire qu'on a fait rêver les gens pendant une heure.
Et c'est quelque chose qui concerne tout le monde, les petits. Il y a vraiment des jeunes enfants et tous les âges se retrouvent sur la place au beurre. Et pour moi, c'est un lieu vraiment de partage parce que si le public n'était pas là, on ne raconterait pas, c'est évident. Et ils viennent parce qu'on raconte. Et donc, c'est un lieu formidable de partage de paroles, de valeurs, de repères. Ça donne du sens à tout ce qu'on fait, je pense.
Je voudrais rajouter que quand on dit un conte pour enfants, les adultes aiment les contes pour enfants. Et quand on dit un conte pour adultes, chaque génération prend ce qu'il peut prendre. Et la fois suivante, quand il écoute le même conte, il en retirera encore autre chose. Même si ce sont les mêmes contes racontés par la même personne, l'apport sera toujours complet. Chacun en retirera quelque chose.
Notre perle, c'est quand même Camille. Avoir une conteuse parmi nous qui a démarré à 11 ans et qui vient parce qu'elle a envie de venir, pas parce qu'elle est poussée par les profs ou les parents. C'est vraiment c'est une joie incroyable.
Est-ce que vous pensez que le support en lui-même du conte, il est plus accessible que... Parce que je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être du théâtre ou de la danse. Qu'est-ce qu'il amène en lui-même, ce support-là du conte, par rapport à d'autres formes?
Pour moi, c'est la simplicité. La simplicité où on vient, on s'assied, on écoute, sans préjugés, sans... tout simplement.
Ben, c'est aussi que les spectateurs, ils peuvent fermer les yeux et complètement se laisser porter. Alors que, par exemple, pour le théâtre, t'es obligé vraiment de regarder. Alors que là, tu peux complètement partir autre part, t'imaginer des choses. Tu peux vraiment te laisser porter. Ça, c'est vraiment... bien.
Et puis, la diversité des conteuses et des contes fait que ce sont des moments très courts. On ne lasse pas le public. Un spectacle de théâtre ne peut pas plaire à tout le monde. Là, s'il y a un conte qui ne plaît pas au public, il y a toujours la conteuse d'après qui rattrape. Parce que les contes sont très, très variés, très divers, et s'adressent à un public quand même, comme disait Marion, qui va des très jeunes aux très vieux. Quoi. Voilà.
Et puis le conte, il a cet avantage, ce bonheur d'être complètement universel. Les histoires, la plupart du temps, elles se passent ailleurs, dans un temps inconnu, et les contes parlent à tout le monde. Chacun s'y retrouve à sa façon, quel que soit son âge, quelle que soit son origine. Et c'est ce côté universel et en même temps très individuel qui fait que je pense que tout le monde y trouve son compte.
à quoi on peut ajouter le langage symbolique, qui est le support du conte, et qui va donc parler à tout le monde. Et puis les images, quand on regarde ou quand on écoute un texte de théâtre, on est plus dans le dialogue, la pensée, l'action. Et avec le conte, on est beaucoup dans le développement des images.
Alors après ça, on a fait une fête à tout casser. Pendant 3 jours, 3 nuits, on a mangé, on a chanté, on a dansé, on a bu, on a mangé, on a chanté, on a dansé, on a bu. Enfin, au 3e jour, ils ont trouvé que je coûtais un peu cher, que j'avais trop mangé, trop bu. Mais je n'étais pas toute seule. Il y avait aussi Bertrand. Il y avait aussi Catherine. Il y avait Marion. Il y avait Laurence. Il y avait Camille. Et il y avait Brigitte. Et alors, ils nous ont attrapés tous, de nous, chacun de nous. Ils ont fait une petite boulette. Et chacun a eu sa sarbacane pour être soufflé. Et c'est comme ça que nous sommes tous arrivés pour raconter nos histoires à la place au beurre.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui a envie un peu de raconter des histoires, mais qui ne sait pas trop comment se lancer, comment, par quel fil tirer?
Faut y aller.
Et il faut en écouter énormément, sans jamais s'en priver.
Ne pas se poser trop de questions et y aller, comme tu disais.
Choisir des histoires qui parlent, qu'il aime et qui lui parlent pour se lancer à les raconter.
Et venir place au beurre pour essayer une première fois, parce que la place au beurre, c'est aussi fait pour ça.
Les excellents contes de la place au beurre, c'est tous les mardis à 19h. Allez écouter, franchement, ça vaut vraiment le détour. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci Nico.
Mais merci à toi Ben.
On va régler nos quelques problèmes de ce matin. Voilà, il y a des lattes du matin comme ça, tout fout le camp, que voulez-vous. On se retrouve pour de la rediff mercredi. Voilà, on se quitte avec Broken de Bad Religion. On vous souhaite une excellente journée. Profitez-en bien. À mercredi. Ciao.
She said, thanks but I'm broken. I guess you must have misspoken. What a laugh, I've never been chosen by anyone. She was barely a teen, hanging out in between, just a part of the scene. With mercurial smile and incurable style, she was only a dream. How's that? He didn't know a thing about making love to the kind of girl you read about. He said, I'm bound to be broken. My daddy bet that I'd amount to nothing. He won't let anybody show him anything. He was a troubled child, had been down for a while, always kept to himself. No, she couldn't defend, he only wanted a friend. Now he's made something else. It's so sad, no one saw it coming. The paper said that he hit the ground running. Oh yeah, I know I'm not broken. A little cracked, but still I'm not broken. I wanna laugh, but I think that I'm choking on reality. When the world is turning for you, don't turn on me. Who are you here to repair? Well, I don't know what you mean. You could never resist horrifying despair. And now it's coming to you, and I don't really care. Kind to insist, you couldn't have missed. We must coexist. So please listen to me. There is no such thing as human debris. Oh yeah, I know I'm not broken. A little cracked, but that amounts to nothing. I wanna laugh, I'm not joking.